Alors, la suite, c'est le carbone. Alors là, c'est très simple. Où y a-t-il eu du carbone, des molécules carbonées simples dans le système solaire, simple, c'est CO2, CH4, des choses comme ça. La réponse est partout. Par exemple, l'atmosphère de Vénus est pleine de CO2, il y a plein de méthane dans la surface de Neptune, il y a plein de carbone, on verra ça, du CO2, du CO dans les queues de comètes, on le sait depuis longtemps. On a pu trouver ça spectralement quand la comète de Halley est passée en 1910. En 1910, on a trouvé le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique, petite molécule carbonée simple, dans la queue de la comète de Halley. Or, la Terre, elle a traversé la queue de la comète, et il y a des escrocs qui ont dit « Regardez, on va traverser la queue de la comète, ça contient du gaz toxique, le CO et le monoxyde et le cyanure. » Il y a des escrocs qui vendaient des masques pour se protéger de la comète. Donc, la fin, le carbone, où est-ce qu'il y en a? Partout. Ça va très vite. Alors, troisième caractéristique, c'est la présence de molécules carbonées complexes, au moins au début. Puisqu'on sait que la vie, c'est les fers maintenant. Et pour que ça commence, il fallait qu'elles soient toutes faites de façon abiotique, sans vie. Alors, où y a-t-il eu des molécules carbonées complexes dans le système solaire pour que la vie puisse débuter? Les deux sources actuellement bien envisagées, bien étudiées, Miller et tout ça, c'est complètement abandonné, c'est la vie est venue, les molécules complexes sont venues de l'extérieur, conduites carbonées aux comètes, ou elles ont été faites sur Terre. Alors, peut-il venir des molécules complexes de l'extérieur? Ben, la réponse est oui. Par exemple, les chondrites carbonées contiennent jusqu'à 5% en masse de carbone organique. C'est le maximum, hein, c'est les chondrites qu'on appelle CI. 5% de carbone organique dans une CI. Alors, qu'est-ce que c'est que ces molécules de carbone organique qu'il y a dans les chondrites dites carbonées? La majorité est sous forme de macromolécules totalement insoluble. MOI, c'est matière organique insoluble. Et une faible proportion de molécules solubles, soit dans l'eau, soit dans d'autres solvants. Les terres de pétrole, tout ça. Et là, c'est des macromolécules totalement insolubles. Or, c'est très difficile d'analyser des molécules totalement insolubles dans rien. Insolubles dans rien. Déjà, les gens qui font de la pédologie, ils ont le kérogène et tout ça, c'est vachement difficile d'analyser la structure. Alors, quand c'est insoluble, c'est pas facile. Alors, j'ai un ancien élève, qui est un copain, qui travaille au muséum, sa thèse, c'était la matière organique insoluble des chondrites carbonées, enfin de deux chondrites carbonées. Il avait pour faire sa thèse 1,5 g de la météorite d'Orgueil et 1,5 g de la météorite de Murchison. Il a fait donc sa thèse sur 3 grammes. Et ce qui l'intéressait, c'était les 5% qu'il y avait dans les 3 grammes. Donc je ne disais pas qu'il les gâche, hein, ces machins. Il a fait toutes les études possibles et imaginables pour essayer de proposer la composition chimique et la structure de cette macromolécule insoluble. Et voici la formule type, hein, d'Orgueil, oui, c'est vraiment, quand je dis des macromolécules, c'est des macromolécules. Bon, voilà la formule. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est une structure. Alors, il a mis au point, utilisé, voire perfectionné, voire mis au point toute une batterie de techniques pour analyser vraiment quelques microgrammes, puisqu'il avait en tout et pour tout 5% de 3 grammes. Donc, il y a plein d'analyses. Et là, c'est un peu un truc qui est monté sur Curiosity, donc sur Mars, vous prenez quelque chose qui peut-être contient de la matière organique, vous chauffez, plus ou moins fort, plus ou moins longtemps, donc vous dégradez tout ça, vous cassez un petit morceau, et vous analysez les petits morceaux en séparant par des chromatographes en phase gazeuse, et les petits morceaux que vous avez séparés, vous les faites passer au spectre de masse. Ça se fait tout seul, enfin tout seul, ça se fait actuellement sur Mars dans le robot, ce machin-là. Et ensuite, si vous êtes très fort en chimie, vous arrivez à reconstituer les molécules en fonction des petits bouts qui sont passés. C'est tout un travail que je ne domine pas. Alors, il n'y a pas que la chaleur. Là, par exemple, c'est ce qu'il a fait. Il a chauffé, alors je ne sais plus à quelle température, mettons 90 degrés, pendant un certain temps, là, c'est des temps minutes, température constante, temps minutes. Donc, ces molécules se dégradent avec une cinétique, donc ce qui est plus facile à partir par en premier, etc. Tout ça, c'est séparé par chromatographie en phase gazeuse. Ensuite, ça passe un spectre de masse qui vous donne la masse moléculaire. Et donc, au cours du temps, voilà tous les morceaux qu'il récupère. Et ensuite, avec tous les morceaux qu'il récupère, alors il y a d'autres techniques, on peut attaquer par des oxydants violents, tout ça, il reconstitue la structure molécule de départ. C'est pas... Il a mis tout le livre dans sa thèse. Hein. Et voilà le genre de structure moléculaire qu'il y avait dans les deux météorites qu'il a étudiées, Orgueil et Murchison. Vous voyez, c'est vraiment de la macromolécule complexe. Bon, donc il y a ça dans les météorites. Alors, les macromolécules solubles, c'est beaucoup plus facile. On prend la chien, on dissout, et on trouve plein de choses. Alors, c'est connu depuis plus d'un siècle. En particulier, on trouve des acides aminés. Dans la météorite, là, c'est une moyenne de Murchison, 4 ou 5 chondrites carbonées. On a identifié 74 acides aminés différents. Donc, sur Terre, il n'y en a que 21. Donc, il y en a au moins 74 moins 21 qui sont de la pollution. Quand on les a trouvés à la fin du 19e siècle, on a dit que c'est de la pollution. La météorite, on l'a ramassée dans un champ. Dans un champ, il y a de la pollution. Non. D'autant plus que c'est le racémique, c'est-à-dire il y a moitié forme droite, moitié forme gauche. Tout le monde sait que les acides aminés biologiques, pour les animer, c'est que la forme gauche. Alors, il y a plein de choses. Alors là, c'est en ppm, c'est-à-dire en grammes par tonne. Pour une tonne de météorite, il y a quand même 74 grammes d'acide aminé. 74 grammes, c'est le poids d'un œuf. Donc, il y a des bases azotées, purines et pyrimidines. Alors là, il y en a beaucoup moins. Non, quand j'y vois, il y en a 1,3 grammes par tonne. Alors que c'est 60 grammes, donc c'est un œuf, voilà, d'acide aminé. Mais vous avez plein de composés organiques solubles qui sont d'origine extraterrestre, puisqu'on les trouve dans la météorite. Là encore, il y a des gens qui disent, mais ce qu'on est sûr, c'est pas une hypothèse, il y en a beaucoup. Donc, conclusion pour les météorites, les météorites contiennent des molécules organiques. Il y a des molécules simples, comme des acides aminés, mais des molécules très complexes, on a vu cette espèce de macromolécules tout à l'heure. On voit où ça se fait, tout ça, voilà, et certaines de ces molécules ont un intérêt biologique, prébiotique évident. En fait, dans les météorites usuelles, on a tout ce qu'il faut pour faire la vie, à une exception près, il manque le ribose et de quoi faire du ribose. Ben, bon, pour l'instant, peut-être qu'on ne sait pas, les chimistes ne sont pas assez bons pour faire du ribose avec ce qu'on trouve. Mais à part ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors ça, c'est pour les météorites. Alors il y a des témoins beaucoup plus longtemps, c'est les comètes, qui viennent du système solaire externe, nuages de Oort ou une ceinture de Kuiper, qui sont au congélateur depuis très longtemps, qui sont bien au froid, et qui, de temps en temps, il y a des perturbations orbitales et ça devient des comètes. Alors, une comète, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un bloc essentiellement fait de glace, on va dire 60% de glace en masse et 30-40% de pas de glace. Quand il est très loin du Soleil, bon, il est tranquille. Quand il se rapproche du Soleil, parce qu'il y a des perturbations orbitales qui font prendre une orbite très elliptique, quand il arrive assez près du Soleil, il se sublime dans le vide, il y a des jets de vapeur et de poussière qui sont mis à l'opposé du Soleil par le vent solaire. Et donc, la queue, elle n'est absolument pas le mouvement, mais l'opposé du Soleil. Les Grecs l'avaient déjà vu. Voilà à quoi ce que c'est qu'une comète. C'est le modèle classique qui a 40 ans d'une comète. On appelle là de la boule de neige sale, avec la queue derrière. Alors, cette boule de neige sale, depuis la Terre, en analysant spectralement la queue, on sait que dans la queue, il y a plein de molécules organiques. Donc, toutes les molécules qui sont marquées en rouge, donc c'est des molécules organiques. Il y a du C2, tout ça, il y a plein de choses. Donc c'est suffisamment intéressant pour qu'on étudie de près ces molécules organiques, qu'est-ce que c'est. Alors la première comète étudiée, c'est la comète de Halley, en 86, hein, les plus jeunes de la salle ne se rappellent pas tellement peut-être de la comète de Halley en 86. C'était une analyse assez grossière, c'était la technologie, surtout que la sonde et la comète sont croisées à 70 km par seconde. Donc si vous prenez un grain de poussière qui arrive sur une sonde à 70 km, la chaleur d'impact va vaporiser complètement le grain de poussière. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a plus qu'à faire passer dans un spectre de masse. Sur ce, s'il y a des molécules, elles sont complètement détruites. Alors, il y a grosso modo deux types de grains de poussière qu'on identifie par la comète de Halley, des grains de silicate, et puis des grains dont les composants majoritaires sont C, H, O et N. Ça sent bon, ça. Les macromolécules C, H, O, N. Ben, aucune idée ce que c'est, les molécules ont été détruites. N'importe quel biologiste et même géologue, il faut aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a là, comme molécule dans une comète? Alors, il y a eu trois autres missions. Je vous montre tout simplement quelques photos. La première comète visitée, c'est celle-là, Temple One. Là, c'était plus une mission technologique, mais la comète a acheté un gros boulet, enfin, la sonde a acheté un gros boulet sur la comète. D'où le nom de la comète, la mission s'appelle Deep Impact. Et elle analysait spectralement la lueur de l'explosion. Elle a trouvé qu'il y avait de la matière organique là-dedans. La même sonde a visité plusieurs années après, la comète Hartley 2, mais elle avait très peu d'analyse. Alors, il y a eu la sonde Stardust, qui a survolé cette comète. Là, c'est une photo quand il n'y a pas beaucoup de jets de vapeur. Mais la sonde a traversé la queue de la comète. À un moment, il y avait très peu de jets de vapeur, parce que comme elle allait traverser, on ne voulait pas qu'elle rencontre dans des grosses poussières. En traversant les jets de vapeur très ténus, c'était fait exprès, elle a sorti une espèce de raquette. Donc, récupérer des grains de poussière. La sonde était sur une orbite qui l'a ramenée près de la Terre. Et quand elle est passée près de la Terre, elle a largué sa raquette qui est tombée. Et on a pu, en analysant la raquette, récupérer des grains de poussière prélevés in situ sur la comète. Alors la raquette, elle est là, vous voyez la taille de la raquette avec les gens qui donnent l'échelle. Il y a des petites logettes, et chaque logette était remplie d'un espèce d'aérogène, c'est-à-dire une mousse de silice, dont la densité doit être rien, c'est quasiment que du vide avec une mousse de silice. Et on pensait que les grains de poussière qui allaient quand même à 5000 km/h, c'est mieux que 70 km/s, ça fait à peu près 150 000 km/h, beaucoup plus lourd, mais enfin quand même une poussière qui arrive à 5000 km/h, il faut l'amortir si on ne veut pas tout détruire, tout casser. Donc on pensait qu'elle allait s'amortir dans cette espèce de mousse de silice. Alors là c'est une photo, la mousse de silice est recouverte d'un très fin film extrêmement fin de papier, c'était d'argent je crois, mais extrêmement fin, qu'elle a. Et là il y a un grain de poussière qui est rentré, qui a fait un trou dans le très fin papier d'argent, qui a décollé l'aérogel, décollé sur le papier d'argent, qui a explosé. Et tout ce que vous voyez, c'est les dégâts faits par la poussière. Et tous les grains noirs que vous voyez, c'est des grains de poussière cométaire, donc photographie au microscope, une bonne qui sur Terre. Le plus gros, ici, fait 7 microns. C'est la taille d'un globule rouge. Mais donc, vous avez ici, vous avez 3-4 globules rouges de comète, si je veux dire, point de vue. Et c'est ça qu'il a fallu analyser. C'est bien pire que les 3 grammes de mon copain, puisque c'est des globules rouges. Et au départ, l'analyser sans les détruire. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous pouvez les analyser avec des trucs. Alors, je vous passe la batterie d'analyse qui a été faite comme ça. Et je vous donne simplement le résultat. Là, j'ai simplement même pas traduit, parce que c'est trop drôle. C'est un papier de science. Papier de science qui dit les analyses ont montré que ces grains possédaient beaucoup de fonctions aromatiques, cétones, aldéhydes, carboxylies, ainsi que des amides et des nitres, amides 2 et des nitriles. Et ils ont trouvé un grain qui, etc., avec de l'alcool. D'où la bouteille de rhum que j'ai ici. Si vous avez parlé des nébuleuses et de l'alcool dans l'univers, il y en a partout. Et j'ai coutume de dire, parce que je suis très mécréant et fier de l'être, que je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il n'a pas pu interdire l'alcool vu la quantité qu'il a mis dans l'univers. Manifestement, Dieu aime l'alcool. Il en a mis partout, même dans les comètes. Alors, dernière nouvelle de cette comète qui date de 17 août 2009, ils ont trouvé de la glycine, le plus simple des acides aminés, qui n'a pas été dégradé. Parce que le choc a beaucoup dégradé, hein, malgré tout, les grains ont beaucoup chauffé, beaucoup plus que prévu, mais ils ont quand même réussi à trouver de la glycine. Alors, les dernières nouvelles sur les comètes, c'est Churyumov-Gerasimenko, notre comète à nous, que nous explorons avec nos sous. Mais c'est l'ESA qui l'explore. Or, l'ESA, c'est l'anti-NASA. La NASA fait beaucoup de communication scientifique, donne beaucoup de résultats préliminaires. Et l'ESA, ils sont autistes. Ils ne donnent quasiment aucun résultat préliminaire. Donc, par exemple, les seules images qu'on a sont les images de la caméra de navigation, une caméra de mauvaise, entre guillemets, résolution. Et les images de la caméra haute résolution, pour l'instant, seront publiées dans des grandes revues internationales au bout d'un an, un an et demi de travail. Donc, on est très frustrés sur cette comète. Mais qu'est-ce que je peux vous dire quant à la matière organique? La surface est très 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 sombre, 6% d'albédo, et la surface serait très riche en matière organique. Voici les seuls spectres publiés. Alors là, pareil, je vous lis, je ne peux pas vous en dire plus. L'instrument VIRTIS, Visible Infrared and Thermal Imaging Spectrometer, a pu déterminer que l'ensemble de la surface éclairée par le soleil était compatible avec des minéraux opaques associés à des macromolécules organiques non volatiles. Ce matériel organique semble constituer un mélange complexe de molécules présentant des fonctions carbone-hydrogène, carbone-oxygène, il y a CH, il y a CO, et un petit peu de azote-hydrogène, NH. C'est bien ça, hein, dans les régions là. Donc il y a des macromolécules organiques avec des fonctions CH, des fonctions CO, des fonctions NH. Je ne sais pas si on pourra aller beaucoup plus loin plus, parce que vous savez qu'il y a un truc qui s'est posé, qui fait une analyse, il est plus ou moins en panne. Alors, justement, celui qui s'est posé, il y a eu un problème, il devait se poser là. En arrivant, il arrivait à peu près à 3 km/h. Pas vite. Mais il devait tout de suite s'accrocher, il avait des harpons, des machins, et tout le dispositif d'accrochage n'a pas marché. Donc il a rebondi, toujours à 3 km/h. La gravité est un 50 millième de la gravité terrestre là-dessus. Hein. Ça fait 5 km. Il a rebondi d'un kilomètre, et il est là, maintenant. Alors, on ne sait pas trop où, mais voilà, il est dans ce champ de cailloux-là. On est frustré, la qualité des photos extraordinaires que l'ESA donne très très peu. En fait, il doit être coincé complètement dans un trou, et c'est ça le problème, il est à l'ombre, la journée dure 12 heures, donc il va avoir 6 heures de jour, 6 heures de nuit, d'ombre, et il n'a qu'une heure et demie de jour. Une heure et demie, il est à l'ombre, parce qu'il est dans un trou, et donc il ne peut pas recharger ses panneaux solaires. C'est-à-dire, il avait une grosse pile qui devait marcher 2 jours et demi, la pile a marché 2 jours et demi, et ensuite il avait des batteries qui devaient se recharger par les panneaux solaires, et c'est ça qui se recharge. Et puis il avait de quoi faire un forage, un petit forage, justement, pour faire les méthodes d'analyse automatique chromatographique. Comme il est couché, la foreuse, elle a foré dans le vide. Mais sinon, il y a plein de résultats. Et le seul résultat publié, il y en a plein d'autres, hein, donc j'ai dit, il y a plein de résultats, mais je ne sais pas. Là, voilà le paysage, ça c'est le pied qui est en l'air, là vous avez la surface de la comète. On pourrait faire de la géologie là-dessus un petit peu. C'est que pendant qu'il faisait son rebond, là, qu'il volait tranquillement au-dessus, il a fait tout ça. Il était en plein soleil, il survolait la comète, il a reniflé, il a sniffé les gaz comme ça. Et la seule chose publiée, c'est qu'il a trouvé de l'eau, c'est normal, et rich in organics. Après, dans son trou à l'ombre, il y en a beaucoup moins. Very low organics. Mais quand il était au-dessus du soleil, la comète dégazait de l'eau, c'est normal, et rich in organics. Ils n'ont pas dit lequel. Donc, la conclusion pour l'étude de la comète, là, c'est qu'il faut attendre la suite des résultats. Alors, si vous voulez tout savoir sur les comètes, je vous invite à aller voir le site de l'ESA, et bien sûr Planète Terre, où il y a des comptes rendus réguliers. Alors, on peut se demander d'où viennent ces macromolécules complexes qu'on trouve dans certaines météorites, dans les comètes. Ben, c'est tout simple. C'est un peu comme Miller. Miller, il faisait avec des décharges électriques et tout ça, il prenait des petites molécules, il en faisait des grosses. Ben là, c'est pas Miller, c'est dans les grains présolaires, tout ça, vous avez plein de glace, alors de la glace d'eau surtout. Mais vous avez de la glace d'alcool, de la glace de méthanol, de la glace de monoxyde de carbone et des petits hydrocarbures simples. Si dans ce mélange de glace, vous irradiez avec l'ultraviolet ou des rayons cosmiques, vous faites des réactions à l'état solide dans la glace et vous faites des macromolécules in situ dans la glace. Et par exemple, dans ce papier de Pour la science qui date de 1999, vous voyez que c'est de la vieille chose, avec ce mélange de départ, hydrocarbures simples, enfin benzène en l'occurrence, méthanol, eau, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, tout ça gelé sur les silicates, vous avez fait des molécules complexes, en particulier les quinones. Alors ça se refait beaucoup, et il y a 2 ans, il y a eu une espèce de buzz médiatique, on était contents, parce que les gens du CNRS, ils avaient reconstitué une glace cométaire en mettant de l'eau, tout ce qu'on savait sur les comètes, hein, de l'eau, de l'ammoniaque, etc. Et ils l'avaient mis à moins de 100 degrés, ils l'avaient soumis à une irradiation pendant un certain temps, et ils avaient regardé ce que ça faisait, en particulier ils avaient fait de l'aminoéthylglycine, parce que c'est un très bon précurseur, justement, là, ils l'ont fabriqué, à l'acide des oxyribonucléiques. Donc, avec des glaces et des molécules très simples, on sait expérimentalement quasiment faire les précurseurs de l'ADN, donc les bases azotées et le ribose qui nous manquait. Ça se fait expérimentalement, si on bombarde de rayons ultraviolets, des glaces avec des petites molécules simples. Alors, la suite. Eh bien, figurez-vous que dès que vous avez des silicates qui contiennent du fer B+, olivine, pyroxène, olivine, ça marche bien mieux, au contact d'eau liquide, chaude, gazeuse ou supercritique, il suffit que la température soit supérieure à 80 degrés, il peut se produire des réactions qu'on appelle les réactions de type Fischer-Tropsch, nom qui se plante en Allemagne. Ça date de 1923, la publication. Vous avez du fer B+, par exemple dans de l'olivine, de l'eau. Ça fait du fer 3+, qui par exemple est contenu dans la magnétite, de la brucite, qui est un oxyde de magnésium, de la serpentine, peut-être le minéral le plus important de la Terre, donc quasiment pas au programme. Il y a souvent une relation. Plus c'est au programme, moins c'est important, et moins c'est au programme, plus c'est important. Et de l'hydrogène. Alors cet hydrogène peut, si elle rencontre du CO2, qui traîne par là par hasard, et surtout, s'il y a des catalyseurs, ça marche mieux avec catalyseurs. Or, la magnétite est un catalyseur pour ça. Ça fait du CH4 et quelques autres hydrocarbures plus de l'eau. C'est comme ça que les nazis faisaient leur essence à la fin de la guerre. Bon, ils ne prenaient pas de la magnétite comme catalyseur, ils prenaient des machins plus efficaces. C'est une réaction de type Fischer-Tropsch 1923. Alors, une preuve que ce type de réaction existe, et est tout à fait possible dans la nature, c'est que quand vous avez des péridotiques, ici c'est dans une nappe ophiolitique turque, de l'eau qui circule, surtout si elle est chargée de CO2, il se trouve qu'il y a des carbonates à côté, parce qu'il y a une grande faille et du permien à côté, le CO2 amené par l'eau, l'olivine et tout ça, ça fait des réactions qui font du méthane, et un mélange de méthane, d'éthane, de propane, d'hydrogène qui sort de ce substrat, qui fait craquer une allumette et ça flambe. Il vient de vous dire que c'était un site sacré dans la Grèce, la Turquie antique et tout ça. Là, on a vu des bouffées de méthane qui sortaient. Quand elles sortent dans l'eau de mer, ces bouffées de méthane, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire des hydrates de méthane, et ça peut faire d'autres. La mer est oxydante. Il y a plein de bactéries dans la mer. Le méthane sort, vous avez du méthane, c'est de l'essence, vous avez de l'oxygène dans l'eau, ben vous oxydez le méthane, soit de façon abiotique, soit de façon... C'est ce qu'on appelle des bactéries méthanotrophes, qui oxydent le méthane, comme nous on mange du sucre. Donc c'est la respiration. Donc ça fait du CO2. Et CO2, ça peut faire des calcaires. Et vous avez des colonnes de calcaire qui viennent de l'oxydation du méthane qui sort et qui est sans doute fait par ce qu'on a vu alors. Alors si ça se fait, ces réactions de type Fischer-Tropsch peuvent s'associer à des réactions qu'on appelle de type Strecker, plus vieilles, où avec du méthane que vous avez fait, vous pouvez rajouter des radicaux NH2 ou CHN et vous faites plein de trucs comme des acides aminés ou des bases azotées qui se font au même endroit, qui peuvent se faire au même endroit. Et de telles synthèses sont observées dans les sources hydrothermales quand le pH est alcalin, c'est-à-dire dans les sources hydrothermales sur péridotite. Dans l'éducation nationale, on apprend que les fonds océaniques sont basaltiques et les fonds océaniques non basaltiques ne sont pas du programme. C'est peut-être là qu'est née la vie. Donc ces réactions eau plus silicate, etc., semblent assez spontanées, ça se fait tout seul, si le pH n'est pas acide. Ça, c'était la troisième caractéristique des molécules relativement complexes. Prébiotiques. Elles peuvent tomber du ciel, elles peuvent se faire sur place. Alors, dernière caractéristique et exigence, c'est de l'énergie noble. Alors, voici un écosystème de base que tout le monde connaît. Vous avez le soleil qui éclaire des arbres qui grandissent. La girafe mange les arbres. Le lion mange la girafe. Quand le lion est mort, il est mangé par les vautours. Les vautours ont des bus qui piquent le sang et mangent le sang des vautours. Et il y a certainement des bactéries dans les bus. Donc, vous avez tout. Chaîne alimentaire classique. Mais la base de la chaîne alimentaire, c'est le soleil et le CO2. Donc ça, c'est un machin que j'ai fait pour les non-spécialistes, enfin, je vous montre quand même. Si vous avez un organisme photosynthétique, de l'énergie lumineuse, du CO2 et de l'eau, ça dégage de l'oxygène et ça fait des molécules complexes contenant du carbone, de l'hydrogène et de l'énergie dans les molécules complexes. Le stock. Toujours pareil, c'est un truc que j'ai fait quand public, aussi un gland, un tout petit gland. Mais si on fait germer ce gland grâce à la photosynthèse, à l'eau, etc., 100 ans plus tard, il deviendra non pas un gros gland, bien qu'il y en ait peut-être un sur la photo, mais un grand chêne. Ce chêne donnera des glands, on se regardera des sangliers, que parasiteront des peignards, etc., etc. Et c'est ça la vie. Et pour faire tout ça, il faut de l'énergie, au départ, l'énergie solaire. Évidemment, aucune. Alors on a vu que de l'eau liquide, il y en avait en profondeur dans Mars, dans l'Europe, dans cela, et tout ça. Il est évident qu'il n'y a aucune lumière dans l'océan profond d'Europe, dans cela, ni dans le sous-sol de Mars. Donc là, on est emmerdé. Mais sur Terre, je ne sais pas si c'est au programme, il y a aussi ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Je parle de programme de lycée. Où c'est majeur. Il ne faut pas confondre avec la fermentation et tout ça. Vous avez des réactions chimiques, par exemple un corps A plus un corps B donne un corps C plus un corps D, réaction exothermique, ça donne de l'énergie. Eh bien, tous les êtres vivants, sauf les eucaryotes, qui sont vraiment des handicapés à ce point de vue-là, savent utiliser cette énergie pour prendre du dioxyde de carbone, de l'eau, et faire leurs molécules organiques avec des cycles voisins, des cycles de Calvin et tout ça. C'est une synthèse de macromolécules organiques, avec de l'énergie, qui n'est pas du soleil, qui est de la chimie, du CO2 et de l'eau. Tout le monde fait ça, très bien, sauf les eucaryotes. Alors, un exemple bien de chez nous, une grotte en Auvergne, vous avez de l'eau qui sort et qui contient du fer de plus, et un petit peu d'H2S aussi. Elle sort dans une grotte, fait noir, mais dans la grotte, il y a de l'oxygène. Et si vous oxydez le fer de plus avec de l'oxygène, ça fabrique de la rouille, qui donne de l'énergie, c'est une réaction exothermique. Tout ça se fait dans le cytoplasme de bactéries. Les bactéries absorbent le fer de plus, absorbent l'oxygène de l'air, ça donne du fer 3+, de l'énergie, et les bactéries savent très bien utiliser cette énergie pour prendre de l'eau, du CO2, et faire leur glucose, leur synthèse, et tout ça. Donc, ça marche très bien. Alors, les exemples les plus connus, c'est ceux-là, parce que les gens, les grottes auvergnates, c'est bien, mais c'est moins spectaculaire pour Nicolas Hulot. Au niveau des sources hydrothermales, vous avez de l'eau qui sort, qui est pleine, par exemple, d'H2S, Cet H2S qui arrive dans la mer est oxydante, il y a de l'oxygène dissous dans la mer, les poissons ça respire dans la mer. Et donc ce H2S rentre dans les bactéries prennent l'oxygène dissous dans la mer, vous doxydez l'H2S pour faire du soufre ou du SO4 moins moins, ça vous donne de l'énergie, vous prenez du CO2, vous prenez de l'eau et vous faites des macromolécules. Donc c'est une source d'énergie chimique, là c'est l'oxydation dans ce cas-là du fer de plus, dans ce cas-là du soufre réduit, et vous faites vos synthèses. Alors attention, parfois en résumant un peu vite, par exemple, j'ai entendu Nicolas Hulot dire que c'était la chaleur de la Terre qui fournissait l'énergie à la base de ces écosystèmes. Évidemment non, c'est pas la chaleur de la Terre, c'est un réducteur qui arrive en présence d'oxygène qui est un oxydant. Comme je dis, si chauffez, prenez du l'eau Perrier, il y a de l'eau et du gaz carbonique, si vous la chauffez, vous n'aurez pas du glucose. Donc la chaleur est une énergie totalement dégradée, ça ne marche pas. Et il y a également beaucoup de gens qui disent « ces réactions-là peuvent se faire sans lumière ». C'est vrai, ça c'est dans une grotte, ça pourrait être une grotte, ça c'est au fond de la mer, 3000 mètres d'eau, fait noir. Il n'y a pas besoin de la photosynthèse, si on arrêtait le soleil d'un coup de baguette magique, ça marcherait encore très bien. Fatale erreur. Ces deux réactions, elles ne marchent que parce qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère et de l'oxygène dissous dans l'eau. Or, pourquoi il y a de l'oxygène dans l'atmosphère et de l'oxygène dissous dans l'eau? Parce que il y a la photosynthèse, je ne vais pas vous faire le cycle du carbone, pour des conditions spéciales, mais toujours est-il que c'est quand même la lumière qui, indirectement, est à directement même, est à l'origine de l'oxygène de l'atmosphère. Donc, dire que d'un coup de baguette magique, effectivement, ça marche un certain temps, là, les sources hydrothermales, tant qu'il y aurait de l'oxygène dissous dans la mer, ça marcherait. Puis dès qu'il n'y aurait plus d'oxygène dissous dans la mer, comme elle ne serait pas renouvelée, ça ne marcherait plus. Donc, même la vie dans les sources hydrothermales dépend du soleil. Et ça, le nombre de connards qui disent exactement le contraire, alors s'ils ne savent rien, c'est pas grave, mais il y en a qui veulent faire croire qu'ils savent. Qu'ils ne savent pas. Donc, il est évident que sur repense là de Mars, il n'y a pas de photosynthèse. Alors, sur Mars, il y a de la lumière en surface, mais il fait en moyenne moins 50. Et puis, dans les autres, il n'y a pas de lumière en surface. Il n'y a pas d'eau liquide en surface, donc il ne peut pas y avoir de vie. C'est pas là que c'est pas cette énergie qui va marcher. Alors, sur Terre, c'est a priori la majorité de la biomasse en milliards de tonnes sur Terre. Il y a des bactéries qui vivent dans le sous-sol profond. Sous-sol continental ou sous-sol océanique. En fait, jusqu'à ce que la température soit 120 degrés, avec un degré géothermique de 20 degrés par kilomètre, ça fait quand même 6 km de profondeur. Donc entre ici et 6 km sous nos pieds, vous avez plein de bactéries qui vivent, alors pareil, entre le fond de la mer et X km sous le fond de la mer, vous avez plein de bactéries totalement indépendantes du soleil et qui vivent dans un milieu totalement dépourvu de dioxygène. Comment font ces bactéries pour faire leur synthèse? Prendre du CO2, prendre de l'eau et faire des macromolécules. Alors, on va faire ça en étapes, on décompose. Et alors, vous avez déjà vu que purement abiotique, prenez de l'eau, prenez un minéral contenant du fer, on l'a déjà vu, ça fait de l'hydrogène et de l'oxyde ferrique, Fischer-Tropsch, c'est déjà vu. Et vous savez que si vous prenez cet hydrogène et du CO2, ça fait de l'eau, plus du méthane, la réaction d'exothermique, j'ai mis plus chaleur, et quelques autres molécules organiques plus complexes, on a vu les réactions de Stryker. Ça, c'est totalement abiotique, c'est les réactions de type Fischer-Tropsch. On fait des molécules, c'est pas une sorte de vie. Une fois ce qu'on cherche, c'est pas les molécules, là, c'est l'énergie. La deuxième possibilité, c'est des réactions biologiques intrabactériennes. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cet hydrogène, qui est fait de façon abiotique. Il va réagir avec le CO2, pour donner du méthane et de l'eau, comme là-haut. La même chose que là-haut. C'est une réaction isothermique, là, ça faisait bêtement de la chaleur. Là, ça fait de l'énergie, mais pas bête. Ça fait de l'énergie. Alors, je ne vais pas vous dire comment les bactéries vont capter ça, mais cette énergie va pouvoir être utilisée par les bactéries, quand je dis bactéries, c'est archées ou bactéries, pour prendre du CO2, de l'eau, cette énergie-là, et faire des synthèses à la cycle de Calvin et tout ça. Alors, ces réactions sont très connues depuis toujours. Ça se passe dans l'estomac des vaches. Vous avez des fermentations qui dégradent du NAD, des pH2 ou je ne sais pas quoi, il y a de l'hydrogène qui sort un peu. Vous avez du CO2 dans l'estomac d'une vache. Vous avez de l'hydrogène. Dès que vous avez du CO2 et de l'hydrogène, vous avez de l'énergie potentielle. Et dès que vous avez de l'énergie potentielle, vous avez des bactéries qui l'utilisent. Il n'y a que les eucaryotes qui sont cons comme des balais qui ne savent pas faire. Mais tout ce qui n'est pas eucaryote l'utilise. Et c'est pour ça que les vaches font du méthane. Donc c'est des bactéries connues comme le monde, vieilles comme le monde. Et ça peut se faire dans le sol, et le problème c'est l'hydrogène, il faut... Alors, pour l'instant, on n'a pas de bactéries qui font du Fischer-Tropf biologique. Peut-être qu'un jour, on va trouver des bactéries qui font du Fischer-Tropf biologique. Donc là, vous avez des molécules carbonées biogéniques avec l'énergie. Et ça, c'est de la chimiosynthèse biologique. Alors qu'en haut, c'est de l'organosynthèse abiotique. J'ai écrit dessous. Alors, en haut, c'est extraordinaire. Vous synthétisez quelques molécules organiques. Bon, beaucoup. Et c'est favorable à l'origine de la vie. Et en bas, vous fournissez beaucoup d'énergie. Et si la vie est là, c'est favorable à son développement. Au même endroit. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai mis en bas, c'est peut-être la réaction chimique la plus importante de la vie. C'est pour ça que l'éducation nationale n'en parle pas. Donc maintenant, on a tout. Où, dans le système solaire, a-t-on vraisemblablement ce contact au liquide silicate? Dans le sous-sol de la Terre et de Mars, bien sûr. Sans doute pas dans les océans de Ganymède, Titan et autres gros satellites de glace, parce qu'il y a les glaces de haute pression qui font un isolant entre les silicates et l'eau liquide. Mais à la base, l'encelade est d'Europe, si. Parce que la pression n'est pas suffisante pour que l'eau liquide soit séparée des silicates par des glaces de haute pression. Alors, est-ce qu'on a des preuves que ce contact existe et qu'il s'y produit au moins une organosynthèse? À défaut de la vie, j'en sais rien, mais l'organosynthèse, on va voir. Alors, quand on a découvert les geysers d'encelade, où a priori il doit y avoir ce contact silicate, etc., il a dit, faut aller voir de plus près. Alors, la sonde n'était absolument pas programmée pour ça, parce qu'on ne connaissait pas. On a attendu qu'elle soit. Que ce pourquoi elle avait été faite était bien fait. Elle avait un spectre de masse pour analyser la haute atmosphère de Titan. Eh bien, on a décidé, la NASA a décidé, c'est un peu suicidaire, mais ça marchait et elle est sortie, de faire traverser un panache d'encelade par la sonde. Et d'utiliser les instruments prévus pour analyser la haute atmosphère d'encelade de Titan pour ça. Ça s'est fait en fin 2008, et regardez-moi le résultat. Ça c'est l'abondance, et ça c'est la masse atomique avec un pas de 12. On a trouvé là-dedans de l'eau, de l'ammoniaque, du méthane, etc. Puis des molécules en C2, en C3, en C4, en C5 et en C6. Fin de la visibilité instrumentale. Il y a peut-être sans doute plus, on ne sait pas. Donc il semble bien avoir une organosynthèse abiotique sur un sable. Au moins abiotique. Biotique, je ne sais pas, mais au moins abiotique. Mais il y a eu des nouvelles jeudi. Et je vais vous donner les nouvelles du jour, si je puis dire. Alors, dernière nouvelle. Nature. 12 mars 2015, il y a deux jours. Alors je lis, ici nous reportons une analyse de grains de poussière nanométrique de silice. Donc ils ont trouvé dans l'anneau E, qui vient des volcans d'Encelade, des microparticules nanométriques de silice. C'est probablement que dans les panaches de vapeur, ça contient un tout petit peu de silice, dans le vide, la glace se subit, nous atteint, il reste plus que la glace. Alors, pour avoir la composition de la silice qu'ils trouvent, cette gamme de particules, ils ont fait des tas de modèles divers et variés, et ils en concluent qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui est circulée dans des silicates à au moins 90 degrés, avec un pH supérieur à 8,5. Alors, l'eau, là, contiendra de la silice colloïdale dissoute, qui, partant, va faire les panaches de vapeur, etc. Donc, ils disent qu'à une profondeur de 40 km, il y a de l'eau qui est en contact avec les silicates à 90 degrés sous l'encelade. Donc, le schéma qui est sorti dans Nature, c'est ça, hein, vous avez la glace, le contact eau, la glace là, le contact eau roche, et ça c'est les panaches, on va grossir, voilà, vous avez le roche, l'eau liquide, l'océan, la glace, et là vous avez des machins hydrothermaux à au moins 90 degrés. Avec, ils mettent la réaction, olivine plus eau donne méthane, etc. Plus autre, ils auraient pu mettre un peu de CO2, parce qu'olivine plus eau sans carbone, ça ne fera pas beaucoup de méthane. Là, la NASA s'est un peu trompée, mais bon, c'est pas grave. Olivine plus eau, plus gaz carbonique, ou je donne méthane, plus énergie. Donc, organosynthèse, ça semble acquis. Pourquoi pas plus voilà. A-t-on des preuves de ce contact au liquide silicate sur Europe? Pour la preuve, il faudrait faire un trou et percer 10 km de glace, au moins, peut-être 30. Or, déjà, percer 5 km sur l'Antarctique, c'est pas facile. Alors, une base polaire sur Europe, avec Jupiter au fond, ça serait pas facile. Et pour vous montrer que la vie peut exister dans ces milieux sous-glaciaires, c'est les lacs antarctiques, Vous savez qu'il y a des lacs en Antarctique qui sont séparés du reste de la biosphère par plusieurs kilomètres de glace. Alors, les premiers indices, il doit y avoir de la vie là-dedans, c'est du lac Vostok. Alors, le lac Vostok n'a pas encore été atteint, mais le forage s'arrête dans de la glace de regel. C'est le lac qui était plus grand que maintenant, dont le toit a gelé. Tout simplement, c'est le froid du Vurm. Pour que le froid traverse 3 km de glace, il y a un temps de latence. Et là, le lac se refroidit parce que l'onde de froid du Vurm arrive en bas. Donc, il gèle. Et dans cette glace, qu'on a remonté, on a trouvé par PCR et tout ça, de l'ADN. Parfaitement normal, le forage n'a pas été fait de façon stérile, donc il y a de l'ADN de russe, puisque le forage est fait par les russes. C'est normal. Mais ils ont trouvé de l'ADN de bactéries thermophiles. Ils auraient trouvé de l'ADN des Escherichia coli, on m'a dit, c'est un russe qui ne sait pas laver les mains après t'aller chier. Mais a priori, les russes ne véhiculent pas dans leurs mains des bactéries thermophiles. Donc il doit y avoir là-dedans des sources hydrothermales, et il doit y avoir de la vie là-dessous. Mais on n'en a pas la preuve. La preuve est arrivée dans la publication du 21 août 2014 dans un autre lac, le lac Williams, sous 800 mètres de glace, ils ont trouvé remonter des bactéries. Donc la vie sous la glace, c'est possible, même sur Terre. Alors est-ce que c'est possible sur Europe? On n'aura pas besoin d'aller percer la glace pour le voir. Parce que, autre nouvelle du 12 décembre 2013, le télescope spatial a vu que de la vapeur d'eau sortait. Un petit peu près du pôle sud, pas tout à fait, mais pas très loin du pôle sud. Il y a des panaches volcaniques ou geysériens sur Europe. C'est pas les belles photos sur Encelade, c'est pas une photo prise en face à côté. C'est vu de télescope depuis la Terre, le télescope spatial. Mais il y a des dégagements d'eau là. Alors voilà, la photo, le dessin d'artiste, et ça date du 12 décembre 2013, donc ça fait moins de 2 ans. On peut comparer Encelade, Europe. C'est pas la même taille, ça c'est la taille de la Lune, ça c'est 500 km. Mais ça ressemble. Et en fait, Europe, ça va être quelque chose comme ça, il y a des fois la vapeur qui sort. Et on n'a pas besoin, pour voir ce qui se passe, d'aller faire un trou, il n'y a qu'à se mettre là et attendre que ça sorte et pyramider ce qui sort. Alors, si on résume, où dans le système solaire y a-t-il du carbone et des molécules complexes précoces? Partout. A priori. Carbone. Là, les molécules complexes, on peut les faire sur place, elles tombent avec les météorites et les comètes, il n'y a aucun corps qui n'a pas reçu une météorite et une comète. De l'eau liquide superficielle pérenne, évidemment sur Terre, sur Mars dans un passé lointain. De l'eau liquide souterraine ou sous-glaciaire, dans la Terre, dans Mars, dans Europe, dans Ganymède, dans Callisto, dans Titan, dans Encelade, dans Triton. Au moins. De l'eau liquide profonde en contact avec des silicates, il y a la Terre, Mars, Europe, Encelade, au moins. Alors, voilà, grande question. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, vous avez vu tout ce qui était habitable avec la vie, bien de chez nous, sans aller chercher des trucs exotiques. Alors, pour Mars, on sait depuis quelques mois que les couches argileuses du cratère Gale passent pas la cible c'est là, mais les couches là, en bas, ils ont fait 4 ou 5 forages, il y a un forage qui contient de la matière organique. Il n'y a qu'une publication provisoire. Cette matière organique, pourra-t-on déterminer si elle est abiotique ou biogénique? Pour l'instant, on ne sait pas. Si jamais on arrive à déterminer qu'elle est biogénique, je ne sais pas encore. S'il y a des fractions de mésotopiques importantes, ça sera bon signe. S'il n'y en a pas, c'est pas bon. Ça veut dire ni bon ni mauvais signe. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudra chercher si par hasard, il n'y a pas encore un peu de vie sur Mars, soit en profondeur, là où l'eau est passé 5 km de profondeur, il y en a sur Terre, pourquoi pas sur Mars, soit là où il y a l'eau liquide temporaire, les petits pissous, pourquoi pas. Donc il y a encore du boulot sur Mars. Alors, on a découvert, il y a moins d'un an, qu'en se promenant dans le cratère Gale, dans le fond de son cratère, il a fait une dizaine de kilomètres déjà, il renifle régulièrement. En général, il n'y a pas de méthane, enfin en dessous du seuil de détection, et il a ressenti 2 bouffées de méthane. Pendant quelques jours, il y a du méthane dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que ces bouffées de méthane? Je ne peux absolument pas vous le dire, mais c'est tout à fait compatible avec une vie actuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a une, parce qu'il y a plein d'autres façons de faire du méthane que de la vie. Alors pour Europe et Encelade, la réponse est aussi à portée de mission spatiale. Paraissent réalisables. Parce que c'est pas très loin, et puis finalement c'est pas si cher que ça. Alors pourquoi en ces périodes de disette budgétaire? Alors NASA pense sérieusement réfléchir à Europe, qui est quand même beaucoup moins loin qu'Encelade. Et elle vient de lancer un appel d'offres à la recherche d'instruments pour une prochaine mission. La NASA dit on va faire une mission, elle veut récupérer les meilleurs laboratoires du monde qui font les meilleurs instruments dans tel bouton. Donc, enfin, un appel d'offres, et c'est comme ça, par exemple, pour le robot martien, il y a la caméra chimique CanCam qui est faite par Toulouse. Parce que Toulouse était le meilleur. Et voilà une preuve datée, donc c'est un appel d'offres, si on peut dire, du 15 juillet 2014. La NASA recherche des idées d'instrumentation. Pour l'instant, c'est un état d'idées, elle recherche. Si on a une mission, qu'est-ce que vous feriez? Alors, quand on fait financement, c'est pas cher. Une grosse mission coûte 3 à 5 milliards d'euros, étalée sur 12-15 ans. Donc, ça fait quelques centaines de millions d'euros par an. Quelques centaines de millions d'euros par an, c'est le budget d'un club sportif genre PSG. Mais il n'y a pas que le foot, hein, le baseball américain, etc. Donc, c'est pas grand-chose de l'argent, il y en a. Alors, surtout que, j'ai rappelé en bas, n'oublions pas que la fraude et l'évasion fiscale, c'est pas pareil, il y en a qui l'égalent pas, représenterait, conditionnel, parce que c'est pas facile, 25 000 milliards d'euros par an. 25 000 milliards d'euros par an de fraude fiscale. Vous réduisez ce scandale d'1%, ça fait quand même 250 milliards par an, et bien avec ça, vous réduisez la fraude fiscale de 1%, vous financez 50 nouvelles missions spatiales par an. Faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais ceux qui décident, ils mettent leur argent dans les paradis fiscaux, donc ils ne veulent pas qu'on y touche. Mais on sait où aller là. Alors, on est très pessimiste, hein. Président de la Commission européenne, c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Donc, c'est pas vrai de changer ces choses. Alors, vu ou pas vu actuel, vous passez sur Europe, Encelade ou Mars, on n'a aucune réponse définitive. Mais tous les espoirs sont perdus. Avez-vous des questions?
Dans les autres systèmes solaires?
Alors, dans le système solaire, on peut tout imaginer. Ce qu'on sait, c'est qu'au moins une planète sur 10, c'est probablement plus, sont des planètes. Une étoile sur 10 sont des planètes. Au début, on trouvait les grosses planètes près de leur étoile. C'était des problèmes de technique de détection. Donc on voyait ce qu'on appelait les Jupiter chauds, c'est-à-dire des gros Jupiter juste à côté, à la place de Mercure. Et les techniques s'affinant, on voit de plus en plus de planètes, on va dire, telluriques. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on trouvait d'abord des grosses planètes, on disait qu'il fait trop chaud, donc il ne peut pas y avoir de vie. Parce qu'elles étaient des grosses planètes près du Soleil. Ensuite, on a trouvé des grosses planètes loin du Soleil, des Jupiter froids, des normaux. Et là encore, les journalistes qui disent n'importe quoi disent « Oui, bon, c'est la planète, mais c'est fait trop froid. » Ils en étaient encore à la notion de fenêtre d'habitabilité. Je ne dis pas qu'il y a de la vie sur Europe, mais il peut y en avoir. Donc, une planète peut être dans une région froide. Et maintenant, on trouve des planètes de masse de la Terre dans la zone d'habitabilité superficielle. La notion d'habitabilité superficielle, ça existe toujours. Donc, il y a plein d'endroits habitables en surface et surtout en profondeur dans les autres dans les exoplanètes. Mais pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir. Alors, on pourra à terme peut-être détecter la vie, on va dire, superficielle. Parce que avec des télescopes de plus en plus grands, on peut faire des spectres de meilleur en meilleur. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on a déjà détecté le spectre de la chlorophylle dans l'univers? Où? Je vous pose la question. Sur la Lune. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la lumière cendrée? Quand vous avez un fin croissant de Lune, donc premier jour ou deuxième jour après la nouvelle Lune, il y a le croissant, et puis vous voyez le reste de la Lune qui est éclairé, qui est gris, qui est beaucoup plus clair. On appelle la lumière cendrée. Simplement que c'est la nuit sur la Lune, cette nuit est éclairée par le clair de Terre. Et quand on analyse la lumière, c'est donc la lumière du Soleil, qui arrive sur Terre, qui traverse l'atmosphère, qui arrive sur la surface de la Terre ou de l'océan, qui repart, qui retraverse l'atmosphère. Mais que ce soit l'océan ou les continents, il y a plein de chlorophylle. Et dans le spectre de la Lune, alors ce n'est pas des bonnes raies, mais on voit vaguement deux absorptions préférentielles dans le bleu et rouge, hein, c'est les zones. Donc, si on voit une planète, on arrive à voir, pas forcément la chlorophylle, parce que c'est pas absolument, mais des raies qui montrent qu'il y a une absorption un peu bizarre dans la lumière, on dira c'est de la lumière qui est absorbée par autre chose que, ils vont dire, les silicates habituels. Les silicates habituels absorbent, on va dire, dans l'infrarouge, pour simplifier, ou dans certaines couleurs, mais on connaît la couleur des silicates. Cette double bande qui laisse passer le bleu et le rouge, c'est grosso modo des pigments organiques. Si on trouve sur une planètes extrasolaires, des choses qui ne sentent pas l'absorption, on va dire, minérale,
on dit tiens, tiens, tiens.
On n'ira pas plus loin. Hein. Deuxième chose, si vous voulez détecter qu'il y a de la vie sur Terre, en passant comme ça, ça a été fait par la mission de Galileo, qui est allée sur Jupiter. Maman allée sur Jupiter, elle a fait une orbite très compliquée en passant par Vénus pour prendre des coups d'accélérateur, et à un moment elle est passée sur Terre, près de la Terre, également pour prendre un coup d'accélérateur, elle a dit tiens, est-ce que cette sonde pourrait détecter qu'il y a de la vie? Alors elle n'avait pas les spectres comme ça pour étudier les spectres de la chlorophylle, elle n'était pas équipée pour, mais elle avait tout ce qu'il fallait pour voir, faire les spectres infrarouges, et elle a pu voir que dans l'atmosphère de la Terre, il y avait du méthane et de l'ozone. Or, les deux sont incompatibles. L'ozone, c'est qu'un oxygène. Vous avez méthane et oxygène à la fois, mais comme ils réagissent, en général, ils réagissent, et puis il reste qu'un des deux, le plus abondant au départ. Si on a les deux à la fois, c'est thermodynamiquement en équilibre, c'est que vous avez une source de déséquilibre thermodynamique. Or, quelle est la plus belle source de déséquilibre thermodynamique que la vie, qui utilise de l'énergie pour faire du déséquilibre, une zone du déséquilibre. Donc, si sur une planète, on trouve que de l'oxygène, on dira, bon, il y a de l'oxygène, il suffit de photoliser l'eau pour faire l'oxygène. Si on trouve que du méthane, bon, vous allez l'atmosphère du Jupiter, si on trouve les deux à la fois, là, c'est qu'il y a une source de déséquilibre thermodynamique. Donc, c'est ce genre de truc qu'on va faire quand on aura des instrumentations qui peuvent... Est-ce qu'on peut avoir des raies spectrales organiques? Montrons des grosses molécules organiques. Est-ce qu'on peut avoir des manifestations de déséquilibre thermodynamique? Ça, mais ça marchera très bien pour la vie superficielle. La vie profonde, ça sera autre chose. Déjà, qu'on a découvert sur Terre la vie endogée il y a 15 ans, c'est évidemment les géologues qui l'ont découvert, c'est pas les biologistes. Vous savez combien ils ont découvert la vie endogée? C'était des pétroliers, c'est également pas le CNRS ou l'équivalent, parce qu'on n'a pas de sous. Les pétroliers ont des sous, eux. Donc, ils ont fait un forage, je suis du gaz, sous les plateaux basaltiques de la Snake River dans l'Idaho. C'est des grandes trappes. Et sous ces grandes trappes qui sont assez récentes, miocènes, supérieures, miocènes, je ne sais plus ce que c'est, il y a des sédiments. Et la sismique montrait qu'il pouvait y avoir des pièges à pétrole, ou à gaz plutôt, vu la profondeur. Donc ils ont essayé de faire un forage pour voir s'il y avait du gaz là-dedans, ou de pétrolier. Donc ils ont fait un forage, mais il fallait traverser d'abord 1500 mètres de basalte. Puis ensuite on arrivait dans les séries sédimentaires. Et il y a eu un problème dans un forage. Alors je ne sais pas si je garantis, je garantis pas l'exactitude, mais c'est l'esprit. Et leur sonde était à 1300 mètres au fond dessous du basalte. Ils ne pouvaient pas la remonter, mais elle marchait encore très bien. C'était pas le forage, il y avait une sonde, il y avait tout ce qu'il fallait faire pour faire des diagraphies et tout ça. Et ils ont vu qu'il y avait du méthane. Ils étaient très contents, c'est ce qu'ils cherchaient. Mais ils ont vu que ce méthane, isotopiquement, n'était pas le même que le méthane dû par la dégradation de la matière organique, le méthane pour devenir pétrolier. C'est parce qu'il y avait des bactéries chimiolithotrophes qui oxydaient le fer de plus de l'olivine ou du pyroxène dans le basalte, il y en a beaucoup, avec l'eau, et ça faisait du méthane. Et c'est comme ça, ensuite, on a fait qu'on a découvert cette vie endogène qui vit jusqu'à à peu près 120 degrés de température. Et voilà comment on a découvert. C'est toutes les grandes découvertes, la vie des dorsales, c'est les géologues qui ont découvert, le rôle des serpentines, c'est les géologues qui ont découvert. Tous les scientifiques géologues comme biologistes sont en général des œillères. Donc un biologiste dit que c'est pas la peine d'aller visiter le fond de la mer, c'est abiotique. Enfin, pas abiotique, il y a la pluie de cadavres. Donc ils vont pas voir, puisqu'ils pensent qu'il n'y a rien à voir. Les géologues ont découvert par hasard, ils n'allaient absolument pas chercher des écosystèmes sur les dorsales. Et les sources hydrothermales, ils ne pensaient pas non plus qu'elles les ont vues. Donc beaucoup de découvertes sont faites par hasard, si bien que c'est beaucoup de grandes découvertes dans une science peuvent être faites par une autre science. Alors voilà ta question, les îles de la vie dans une planète extrasolaire. Ben, évidemment que ça vient. Mais s'il y avait un pari à faire, je parie que oui.
Les Titans.
Alors, Titan, il y a deux choses. Titan, c'est un satellite de Saturne, qui est assez extraordinaire. Donc, c'est un gros satellite de Saturne. Donc, il y a a priori le liquide dedans, sous 100, 200, 300 km. Mais a priori, ce liquide est séparé des silicates par de la glace. Donc, c'est pas bon pour la vie comme chez nous. Peut-il y avoir de la vie exotique? De la vie, bon, c'est pas comme chez nous. On peut tout imaginer, est-ce qu'on a des débuts d'indices? Il y a un tout petit début d'indice qui dit que pourquoi pas. Mais c'est vraiment ténu, hein? C'est plus de la géopoésie que de la science. Sur Titan, il y a des lacs de méthane, des rivières de méthane, de la pluie de méthane. Là encore, les mauvais élèves disent qu'il y a sur la Terre qu'il y a des liquides en surface, pas du tout, il y a des lacs sur Titan. Et le plus grand lac, c'est à la taille de la mer Noire, hein? C'est quand même un bon lac. Ce lac, c'est un mélange d'éthane, un petit peu de méthane surtout. Ça s'évapore, ça pue. Il y a tout un cycle du méthane comme est sur Terre, un cycle de l'eau. Et les chimistes qui font des modèles, alors il y a les ultraviolets solaires qui cassent le méthane, il y a tout ce qu'il faut, ils vous disent, vu tout ce qu'on sait, il doit y avoir, je dis des chiffres parfaitement hasard, 95% de méthane, 4% d'éthane, 1% d'éthylène, 0,5% d'acétylène, enfin, ils vous font des modèles, ils vous disent la composition chimique théorique qui devrait être. Et il y a un léger déficit d'acétylène. Acétylène, c'est 2H2. C'est ce avec quoi on fait les chalumeaux, acétylène. Alors, l'acétylène est une molécule, c'est peut-être la molécule qui contient le plus d'énergie. Si vous dégradez l'acétylène, il y a une triple liaison. C'est extraordinairement riche en énergie, cette triple liaison. C'est pour ça qu'on fait des chalumeaux. Et bien, qui se disent, eh bien, si, en solution dans le méthane dans les lacs, vous avez le liquide, vous avez tout ce qu'il faut, il y avait des choses vivantes. Certainement pas comme nous, parce que le méthane étant non polaire, c'est certainement pas le genre avec une membrane cellulaire, avec un pôle hydrophile, un pôle hydrophobe. Sur le méthane, tout ça, ça marche pas. Mais la nature a beaucoup plus d'imagination que les scientifiques. Si dans ces lacs de méthane, il y avait des choses vivantes qui tiraient leur énergie de la dégradation de l'acétylène, c'est pour ça qu'on en trouve moins que prévu. Voici l'argument extraordinairement ténu qui dit que, après tout, pourquoi pas. C'est sorti dans un NASA News, mais vraiment l'état de. D'hypothèse, pourquoi pas. Il suffit que le modèle soit un petit peu faux et qu'il n'y ait pas de déficit de méthane. Donc sur Titan, pourquoi pas.